franceinter.fr.
Votre chien, c'est un vrai con. Il fait chier tout le monde, toute la nuit à aboyer comme un cinglé.
Je hais les bêtes.
Quand on n'aime pas les bêtes, on vient pas se reposer à la campagne.
CO2, mon amour, Denis Chessot.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement avec aujourd'hui Sandrine Laurent et Gilles Gaillard à la technique et assisté de Stéphane Combe, c'est Fabrice Lègle qui réalise cette émission. Oui, c'est Fabrice Lègle qui réalise cette émission. Et la programmation musicale est signée aussi Jean-Baptiste Audibert. Allez, une petite humeur mondiale de l'automobile, ouverture des portes ce matin. Donc négocions le virage sans déraper, décélérons en entrée de courbe, appuyons légèrement sur l'accélérateur pour faire accrocher la gomme en sortie. Alors, facile à dire, mais ça demande quand même un certain doigté des orteils. Et puis il faudrait aussi modifier les véhicules, troquer par exemple la boîte de vitesse contre une boîte de lenteur, car foncer, ça va bien un siècle ou deux, mais là, le moteur n'en peut plus, a trop abusé des hydrocarbures. Eh ben, la rupture de durite est proche, il est temps de passer à la grande révision et embrayer vers autre chose avant d'y être forcé par le mur de béton armé des évidences économiques et environnementales. Alors, le lien est direct avec la seconde actualité de la semaine. Le procès de l'Erika qui a, vous savez, vous en souvenez, donc qui a bêtement rendu à la mer 37 000 tonnes de fioul lourd en allant ficher son pavillon de complaisance sur un rocher inhabité où aucune station totale ne s'est encore implantée. Tout le monde se souvient du nuage de Tchernobyl, hein, vous savez, qui n'avait pu survoler notre hexagone pour cause de plans de vol arrivés hors délai à la tour de contrôle. Eh bien, les avocats du pétrolier Total, très inspirés dans leur mémoire en défense dans l'affaire de l'Erika et qui s'étaient pourvus en cassation, ont concocté une variante de ce célèbre argumentaire. Oh, le postulat était assez simple et efficace. Le naufrage s'étant produit dans les eaux internationales, la responsabilité de l'affréteur ne pouvait être engagée. Seules les pollutions survenant dans les eaux territoriales d'un État sont juridiquement recevables. De là à dire que la pollution de l'Erika, à l'image de la guerre de Troie, n'avait pas eu lieu, eh ben, il n'y avait qu'un pas. Il est en effet notoire que les courants marins n'existent pas et que si d'aventure ils existaient, mais ils n'auraient jamais la fantaisie de pousser leur bon gros mazout jusque sur les côtes bretonnes. Le mazout, c'est bien élevé, monsieur, mais oui, et surtout celui qui voyage sous pavillon de complaisance. Et c'est au moins aussi conscient des réalités physiques du monde marin qu'un avocat se déplaçant en souliers vernis. C'est d'ailleurs peut-être ça qui fait défaut à tous ces gens qui, d'Amoco Cadiz en Erika, viennent ramasser des milliers de tonnes de pétrole brut sur les plages. Dans leurs grosses bottes de caoutchouc, ils n'ont qu'une vision étriquée de notre vaste monde globalisé. Et oui, bénévoles de tous les pays, élargissez vos points de vue et optez pour des souliers vernis. Sauf que la Cour de cassation n'a pas retenu l'argument et a débouté notre pétrolier national qui, certes, limite quelque peu les populations envahissantes de guillemots et de macareux, mais remplit vaille que vaille le réservoir de nos voitures. Alors il y aura bien de nouveaux modèles à la porte de Versailles. Puisque donc le salon va y battre son plein, c'est amusant, de subtils parfums de diesel pour les poumons, de doux concerts d'avertisseurs pour les oreilles, des carrosseries rutilantes pour le regard, et bah oui, la bagnole reste une incorrigible séductrice. Certes, la petite reine tente bien timidement en ville de la concurrencer, mais que voulez-vous ? En France, la royauté a été abolie. Un magazine, la semaine dernière c'était très chaud, hein. On a eu plus de 250 mails enfin, sur les OGM et puis cette affaire n'est pas exactement terminée. Donc là ça va être un peu différent, ça va être, donc on va s'offrir de la diversité avec Jean-Marie Pelt dans quelques instants. Puis je vous emmènerai à Salles. Salles c'est une commune qui se trouve dans le Bas-Rhin. Et on va découvrir donc un maire qui a parié sur la qualité de vie dans sa commune, c'est le cas de beaucoup. Mais quand même, comment s'y prend-il, surtout avec peu d'argent? Et puis ce sera l'actualité avec Nathalie Fontrelle. Jean-Marie Pelt, il est là, mais oui. Eh bien, il arrive avec un bouquet de fleurs. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va partir en Afghanistan, d'ailleurs un endroit que vous connaissez bien parce que vous y avez herborisé.
Oui, absolument. On vient de quitter l'Afghanistan. L'armée française est en train de quitter l'Afghanistan. Les combattants qui étaient en poste à Saroubi, moi je dis Saroubi, eux disent Souroubi maintenant, mais bon, c'est la même chose. C'est très près de Kaboul. C'est sur la route qui va de Kaboul au Pakistan. L'armée française s'en va. On a fait ce qu'on appelait à l'époque de l'Algérie de la pacification. Oui. J'avais rencontré le grand commandant de l'armée de l'air, il y a quelques années, qui revenait de Kaboul, et on a parlé de l'Afghanistan. Ah, il m'a dit, vous connaissez l'Afghanistan? J'ai dit, ah oui, oui, j'y étais plusieurs fois à faire des missions. J'ai circulé un peu partout.
Ce que vous disiez, c'est que c'était, vous l'aviez déjà dit à cette antenne, mais oui. C'est un lieu assez inextricable.
Enfin. Inextricable. Ouais. Et moi, je lui ai dit, vous savez, on sera obligé de partir. Les Anglais sont partis au 19e siècle. Les Russes sont partis au 20e siècle. Ben nous, on partira au 21e siècle. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais il ne fallait pas être prophète, il fallait connaître le terrain. Oui. Ce sont des tribus qui sont souvent très opposées les unes aux autres, mais qui, quand il s'agit de l'Afghanistan, sont solidaires pour mettre ceux qui viennent d'ailleurs à la porte.
Jean-Marie, à présent, on va s'intéresser donc aux plantes. On va y herboriser, je le disais, avec des plantes endémiques.
Quand on descend, puisque de Kaboul à la place de Khyber, ça descend tout le temps, à travers des gorges extrêmement impressionnantes, dès qu'on est en dessous de 1000 mètres, apparaît au bord de la route la jusquiame mutique. Alors cette jusquiame, elle est très intéressante parce qu'elle est très riche en atropine. Et l'atropine, c'est le célèbre poison de la belladone. Ouais. Voilà, c'est un poison qui dilate en particulier les pupilles et que les ophtalmologues utilisent pour faire des examens. Mmh. Voilà, donc elle est encore utilisée effectivement en médecine. Et quand j'étais en Afghanistan, nous pensions que l'Afghanistan pourrait exporter de la jusquiame mutique.
Alors ça, c'est le côté positif de cette jusquiame mutique.
Voilà, c'est son côté positif.
Mais
c'est une redoutable empoisonneuse.
Oui.
C'est une plante terrible, une plante dangereuse. Très jolie plante. Cette plante a été utilisée en 1886 par les Touaregs pour empoisonner la mission Flatters. C'était une mission française. C'était l'époque de l'Algérie française où on voulait faire passer un train à travers le Sahara. Les Touaregs ne voulaient pas et ils ont empoisonné la mission. Et du coup, le projet est tombé à l'eau. C'est aussi la plante dont les graines étaient utilisées par la fameuse Pythie de Delphes.
Ah.
Projeter les graines dans le feu, il se dégageait par conséquent de l'atropine, que la Pythie respirait, et c'est dans un état de quasi-délire qu'elle rendait ces très fameux oracles.
Elle était assez barrée, comme on dit, oui.
Oui, et puis c'est la plante des sorciers. Alors ça marche comment la sorcellerie? Vous allez me dire, le sorcier monte sur un balai et puis il vole.
Oui, ben, c'est Harry Potter, ça.
Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Mmh. Alors ça marche de la manière suivante. On fait un onguent avec des extraits de ces plantes, de cette plante en particulier. On enduit le balai avec l'onguent et le balai, on rentre, quand c'est une femme, naturellement dans le vagin.
Oui.
Et donc cette personne alors est en train de rentrer en délire et elle va se couper de la réalité et imaginer qu'elle vole au-dessus des montagnes et elle va raconter qu'elle a traversé des pays entiers, qu'elle a tombé dans des précipices, qu'elle est remontée vers les sommets. C'est ça qu'elle a vécu.
Ça fait tout
sorcière.
Et vous l'avez vu vous-même parce que vous avez des témoignages ou c'est...
Moi, j'ai le témoignage de Jean-Baptiste Portard. C'est un monsieur
vous avez
du
connu
16e
siècle. Ah voilà, vous avez connu au 16e.
Que j'ai bien connu au 16e siècle, dans une vie antérieure, naturellement, et qui a observé par le trou d'une serrure comment la sorcière s'y prenait. Parce que naturellement, personne ne savait comment elle s'y prenait, les sorcières. Elles ne faisaient pas de publicité sur leur manière d'opérer.
Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, elle serait sur le net. Hein.
Oui, c'est sûr.
Tout de suite, dans les 30 secondes. Hein,
voilà. Vous dire. Alors, quand on a vu la jusquiame mutique apparaître à Sarobi, on fait encore 15 km. Et voilà qu'on voit apparaître au bord de la route à Datura inoxia, qui est une plante assez proche de la jusquiame, de la même famille des solanacées, aussi famille de la belladone, famille de la mandragore aussi. Ouais. Toutes ces plantes sont des plantes redoutables. Et ce Datura a une particularité, c'est qu'il contient deux substances, l'atropine toujours, mais une autre qui est la scopolamine. Et la scopolamine, elle est particulièrement délirogène. C'est-à-dire qu'elle emmène les sorcières encore plus haut et encore plus bas dans leur trajectoire.
Que tout à l'heure.
Oui, dans leur trajectoire. Ah ouais. C'est une source de scopolamine, parce que la scopolamine, c'est un médicament. Oui, c'est un sédatif qu'on utilise à des doses extrêmement faibles, 0,5 mg par jour maximum. Vous voyez les doses, vous voyez, ça vous dit quelque chose sur l'extrême toxicité de ces alcaloïdes, de ces substances. Et on l'utilise comme antispasmodique, ça veut dire comme antispasme, buscopan, ça vous dit quelque chose aussi.
Très peu.
C'est un médicament qu'on utilise quand on a des fortes contractures intestinales.
D'accord. Jean-Marie, j'en profite, hein, j'ai un pharmacien donc avec moi. La différence entre le côté délirogène et hallucinogène?
Il y a une grande différence. Un hallucinogène vous donne, comme le nom l'indique, des hallucinations, mais ne vous coupe pas du réel. C'est-à-dire que vous êtes dans le réel, vous savez que vous êtes assis, par exemple, par terre contre un mur, et puis vous voyez des images colorées, vous voyez toutes sortes de choses, mais vous voyez aussi où vous êtes. Vous ne perdez pas conscience, votre conscience est modifiée. Tandis qu'avec les délirogènes, vous perdez complètement conscience, vous êtes coupé de la réalité.
On quitte le pays, là.
Et vous êtes dans un délire qui, en effet, vous sépare complètement de la réalité et vous replongez après, quand les drogues ont cessé de faire leurs effets, dans cette dite réalité.
Mais alors, ces deux plantes, donc Jusquiame d'un côté et Datura de l'autre, on les trouve uniquement...
Non.
Alors, où les trouve-t-on?
Non, on trouve ces deux plantes-là en Afghanistan et je les ai signalées parce qu'elles sont très riches. Riches en alcaloïdes, en scopolamine, en atropine. On les trouve aussi en France. On trouve des jusquiames en France. Dans le Midi, on en trouve deux, la dorée et la blanche. Et ailleurs, on en trouve une, c'est la noire. Mais elles ont un peu moins d'alcaloïdes, elles sont moins chargées. C'est nous qui avons fait les dosages pour les comparer toutes. D'accord. Et nous sommes arrivés à cette conclusion que la plus riche était en effet la mutique pour la jusquiame. Et le Datura Inoxia de ces régions était aussi très très riche en scopolamine. Alors nous avions l'idée de développer l'Afghanistan en vendant ces plantes médicinales. Bon, puis alors les Russes sont arrivés. Bon, on vend de l'opium maintenant.
C'est ça. C'est assez universel.
Voilà.
Mais écoutez, merci beaucoup, monsieur le pharmacien. Et puis on se retrouve très vite. Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
C'est bien d'herboriser que Jean-Marie Pell quand même. Et oui, sur France Inter. Deuxième volet, dans quelques instants, je vous emmène dans une commune assez intéressante, dans le Bas-Rhin, avec Jean Rouget. I'm not sure, is it how you would say yes? Your room's still open, but I didn't reach the steps. Cause when I went nearby to see what I missed, there was your doorman challenging me to confess, friend. Don't mind my old friend, be fine. My old friend, well tied. My old friend of mine. Well, I got someone behind.
Pourquoi EDF a misé sur le nucléaire comme source d'énergie plutôt que sur l'énergie solaire?
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Eh oui, c'est une vraie question ça, qui était arrivée. On va partir cette fois-ci dans le massif des Vosges, mais nous sommes en Alsace.
Thank you.
Ben Denis, nous sommes exactement au sommet du col de Sal, hein, qui fait la frontière entre l'Alsace et la Lorraine. Ben, c'est le gros avantage d'être au sommet d'un col, c'est qu'on a bien entendu un paysage extraordinaire qui s'offre à nous et un ensoleillement permanent. Ouais. Donc on a carrément l'intégralité de la ligne bleue des Vosges avec en enfilade tous les grands cols d'Urbès, de Sainte-Marie-aux-Mines.
Quand on parle de la fameuse ligne bleue, c'est quoi? C'est la coloration du ciel?
Tout à fait. Hein. Donc on voit qu'effectivement, comme il y a une sorte de reflet du ciel sur les sapins qui procure cette coloration bleue.
Je suis arrivé dans cette commune, j'ai vu tout de suite des habitants qui s'étaient appropriés des îlots de fleurissement, donc qui plantaient, qui sarclaient, qui arrosaient. Des jardins partagés aussi sont en mouvement. Donc nous sommes à Sales, ça s'écrit S-2-A-L-E-S, on est dans le Bas-Rhin. Donc le département des Vosges est juste à côté, il est vraiment limitrophe, on est à 600 mètres d'altitude. 1000 habitants, et c'est pas du tout une commune riche d'Alsace, hein, comme dans la plaine. Non, pas du tout, 55% des gens sont à peu près exonérés de l'impôt sur le revenu. Et puis le budget communal, si vous voulez, ça équivaut au budget de fleurissement d'autres villes. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Vous rajoutez malheureusement une couche de désindustrialisation qui a fait son œuvre et donc il n'y a plus d'emplois industriels sur la localité. Alors pourquoi je vous emmène là-bas? Parce que, en fait, le maire, Jean Vaugelle, arrive à développer une démarche de bien-être, de qualité de vie. Et il s'appuie sur sa matière première qui est la nature environnante. Avec quand même 5 degrés de moins dans la plaine, ça a signification parce qu'on va parler d'énergie aussi avec lui. Donc il souhaite transformer les handicaps en atouts. Et je vous propose donc une cure de calme, d'air pur, entre grès et granit, avec Jean Vaugelle qui est le maire, mais qui aussi est producteur de baies. Donc on va commencer par son jardin.
On voit des myrtillers. Alors pour les gens, c'est les myrtilles, c'est ce qu'ils ramassent évidemment avec un peigne. Alors, les Vosges, c'est une grande région productrice, hein, il n'y a pas que le Massif central ni les Alpes.
Pour le commun des mortels, on connaît la myrtille sauvage, hein, oui. Vaccinium myrtillus, mais il y a Vaccinium myrtillus qui a deux frangins qui, eux, sont originaires du continent nord-américain, qui sont le Vaccinium corabosum et Vaccinium augifolium. Et donc, ils sont taillés de façon à ce qu'aucun fruit ne se trouve près du sol. Ah oui. Et donc, il n'y a aucun risque de souillure par le gibier. Comme de plus, il n'y a aucun traitement chimique. C'est un fruit qu'on vend en disant aux gens de ne pas le laver. C'est un des rares fruits qu'au contraire, il faut manger sans le laver.
D'accord. C'est quoi les vertus de la myrtille? Rappelez-nous, en général, on dit qu'il faut en manger parce que c'est bon pour les yeux, mais...
Voilà, c'est toute la famille, que ce soit la groseille, la mûre, la framboise et surtout la famille des myrtilles sont des fruits très riches en antioxydants. D'accord. Et en plus, les vacciniums ont une caractéristique, c'est que notamment ce qu'on appelle ici le Bluet des Vosges, hein, qui est une marque, ouais, qui garantit la qualité de ce fruit-là, il a un goût très sucré, mais il contient quasiment pas de sucre. Alors c'est une catastrophe pour les distillateurs, parce que bien entendu, on ne peut pas faire d'alcool, mais ce qui fait qu'il y a énormément de diabétiques et qui apprécient énormément ce fruit-là.
Alors, faut imaginer quand même le paysage il y a quelques siècles. Tout était refermé, il y avait de la forêt partout.
Voilà, alors si on remonte encore plus loin, sous Louis XIV, le massif vosgien était déboisé. Ensuite, on a vraiment reboisé, voilà, tous les terrains en pente. Hein, tous les terrains en pente, avec une rouche superficielle qui ne se prêtait pas pour l'agriculture, ont été reboisés. Et ensuite, il y a eu une forêt qui était vraiment, on ne peut pas faire mieux au niveau du développement durable. C'était une forêt qui se régénérait naturellement. Avec l'emblème des Vosges, qui est le sapin noir pectiné, on coupait, ça se régénérait, et dans une forêt, on repiquait au grand maximum 10% de la surface. Et une des premières opérations que j'ai lancées contre l'avis de la population, c'est les ouvertures paysagères, parce que les gens, quand on plante un sapin, on ne le voit pas grandir. Par contre, quand on le coupe, là, vous aviez le soleil à 11h du matin et que vous l'avez le lendemain à 5h du matin, ça vous en rendez compte tout de suite. Et alors c'était assez, les gens ont d'abord été contre, mais comme c'était bien subventionné, ils n'ont rien dit.
Alors ils sont passés de l'ombre à la lumière, c'est un peu ça.
Tout à fait.
Hein. là, on rentre vraiment dans votre village. Comment elle se traduit, cette politique? Vous avez pris quoi comme volet? Là, vous avez parlé de l'eau tout à l'heure, mais il y a le dossier quand même énergétique qui est important. Et en même temps, on est environné de bois. Alors, racontez-nous, qu'avez-vous fait là?
Bon, on a été une des communes les plus impactées par la tempête de 1999. Oui. Nous, c'est entre guillemets notre petite fierté, c'est que la photo qui a illustré sur les journaux du monde entier la tempête en Europe de 1999 était une photo de la forêt de Salles.
Ah, c'était chez vous.
Ouais.
L'autre volet de l'aide gouvernementale annoncée hier concerne la présence des militaires venus aider aux réparations et aux hébergements de première urgence dans les Vosges. Les soldats rencontrés par Richard Binet et Diane Richard pour France 2 déblayent les routes et visitent tous les hameaux sinistrés.
Vous avez ici la route que nous avons dégagée. Comme vous pouvez le voir, les arbres étaient en travers de la route. Plus personne ne pouvait accéder au village.
Si vous voulez, donc bien entendu, du bois renversé, du bois qu'on ne peut plus utiliser en charpente, et on a lancé une étude pour une chaufferie au bois. Et vous avez là, en face de vous, la chaufferie au bois, qui a la caractéristique suivante, c'est d'être la seule chaufferie bi-énergie renouvelable de France, puisque vous voyez sur le toit de la chaufferie 250 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques.
D'accord.
Alors là aussi, je termine sur la chaufferie au bois. La caractéristique, c'est un réseau urbain.
Oui.
Donc il y a une conduite qui a 500-600 mètres de long et qui ravitaille tout le centre du village. Et on est d'une rare chaufferie qui vend près de 70% de l'énergie produite. Et donc le tout fait qu'on économise pas loin de 200 000 litres de fuel par an. Oui. Pour vous dire, bon, on était une commune sans argent, donc vous avez une ruine devant vous, oui. On ne peut pas dire autre chose, c'était l'hangar municipal.
Oui.
Vraiment une ruine. Et donc on n'a absolument aucun moyen pour faire ce hangar municipal. Et on s'est rendu compte qu'en couvrant la chaufferie et en agrandissant derrière la chaufferie, en installant le hangar municipal, on arriverait aux 250 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et que la vente d'électricité nous payerait les panneaux et nous payerait le hangar sur 15-18 ans. C'est ce qu'on a fait et les panneaux photovoltaïques nous autofinancent le hangar municipal.
Alors les gens qui se chauffaient avant, on va dire au fioul ou bien peut-être au gaz, ils font des économies de quel ordre maintenant qu'ils se sont chauffés, enfin qu'ils se chauffent au bois et qu'ils sont raccordés à votre petit réseau urbain?
Voilà, alors aujourd'hui la chaufferie s'équilibre aux alentours de $45 le baril.
Ah, oui.
Donc bien entendu, dès que le prix dépasse $45 le baril, ceux qui se chauffent au bois sont gagnants.
Ah, je vois vos éclairages qui n'éclairent pas les étoiles ni le ciel.
On a choisi à Salles un éclairage en bois. D'abord l'éclairage ancien où on a installé des réducteurs de puissance qui permettent de réduire la puissance après une certaine heure. Et ça, c'est un éclairage qu'on a installé récemment où ça éclaire au maximum une heure à une heure et demie après la tombée de la nuit. Et ensuite, ça diminue pour atteindre 50% de la puissance durant toute la nuit et ça repart juste avant le lever du soleil.
Comment on fait avec aussi peu de moyens pour dynamiser quand même un territoire? Alors vous êtes vraiment engagé depuis longtemps dans ces dynamiques-là. Donc évidemment, il faut le premier magistrat que vous êtes depuis 3 mandats. Mais comment fait-on?
La première des choses, c'est d'adosser ces investissements. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un retour sur investissement et un effet démultiplicateur. Quand vous investissez 1 million d'euros dans une chaufferie, il est certain que à partir du moment où vous vendez de l'énergie et que cette énergie est payée, vous remboursez vos emprunts.
Ouais.
Quand vous réhabilitez des logements en faisant des grosses améliorations thermiques, vous diminuez les charges de chauffage des locataires qui peuvent être divisées par 2 ou par 3. Donc vous êtes quasiment sûr d'avoir des locataires sérieux,
ouais,
parce que tout le monde va vouloir profiter de tels logements.
Thank you. Là, on est sur ce sentier des fruitiers, ce qui veut dire que en le longeant, on peut découvrir près de 300 espèces, c'est ça la différence ?
Voilà, alors il y a 300 arbres qui, au total, représentent environ 90 vieilles variétés fruitières.
Ouais.
Ici, il y a une association qui s'est créée, extrêmement dynamique, avec près d'une quarantaine de membres, qui a une pépinière, et donc dès qu'un arbre crève, il est automatiquement remplacé. Il y a eu 300 arbres initialement plantés en 2002, il y en a toujours 300 qui sont en vie aujourd'hui.
Là, on est à la césure des prairies, des arbres fruitiers et puis de la forêt qui s'avance vers nous, donc beaucoup plus sombre. Et avec votre village, en fait, que l'on surplombe.
Voilà, alors là où on est, bien entendu, c'était de la monoculture d'épicéas.
Ah oui.
Maintenant, vous y voyez une prairie avec des alignements d'arbres fruitiers aux tiges. Un point de vue fantastique que vous n'auriez jamais eu il y a une dizaine d'années. Hein, à la fois sur le champ du feu, la vallée de la Bruche, la vallée de la Fave et l'ensemble des cols, le Han, le Climont. Et comme vous le voyez, ce chemin est pratiqué, ce chemin a été créé naturellement. Et vous avez des centaines de personnes, voire des milliers de personnes, qui viennent suivre ce chemin chaque année.
Je ne vais pas dire vive la tempête, mais enfin vous en avez profité de la tempête. Hein. Vous avez dit qu'il va falloir retourner le gant et profiter de cette catastrophe pour essayer d'en faire quelque chose.
Voilà, nous on a été touchés. Hein. Nous, c'est des... oui. À l'époque, on a perdu entre 500 000 et 1 million d'euros.
Parce que vous étiez vraiment sur un couloir de vent incroyable.
Hein. Oui, on a été là, on le voit en face. Hein. Vous voyez tout... Tout ce que vous voyez en face, il y avait un couloir de 2 km de large environ. Ouais. Et tout ce qui était sur ce couloir a été pulvérisé. Tous les arbres
sont
été détruits.
J'ai un peu l'impression qu'on peut compter les fontaines pour s'endormir à Salles.
Presque, Salles compte plus de 25 fontaines, tout en avec Moine et Grève-Augien. Ça correspond au premier réseau d'eau construit vers 1900, où il n'y avait pas d'eau, bien entendu, dans chaque maison, mais il y avait une répartition ingénieuse de fontaines qui permettait aux gens de
s'alimenter.
De s'alimenter. Voilà.
Pas mal hein, quand même l'air des Vosges là. Donc nous sommes à Salles avec Jean Vaugel, peu de moyens mais qui arrive assez bien. Il y a aussi une initiation au commerce équitable dès le CM2. On s'intéresse évidemment aux petits. Puis il y a une politique de densification du centre urbain avec réhabilitation de logements pour que les locataires n'aient plus à payer plus de chauffage que de loyer. Parce que là aussi, donc la précarité énergétique, on connaît bien. Merci à Jean Vaugel et puis un petit merci aussi à son maire voisin de Grande-Fosse, juste à côté, Bernard Metz, puisque lui aussi, donc, il ouvre les paysages, il fait un boulot fabuleux. Et bien, nous allons avoir notre troisième sujet, hein, notre troisième volet, ce sera après notre chanson, donc après Mélodie Gardot, et bien on va retrouver Nathalie Fontrelle.
De me souvenir de toi, de ta peau, de ta chair qui ont volé en éclats. Dis-moi à quoi ça sert d'être encore avec toi. Ta photo sur l'étagère qui me parle tout bas. Mon nom, mon beau fantôme, que puis-je encore faire pour toi? Mon nom, mon quoi ça sert de pleurer encore pour toi. C'est comme si c'était d'hier. Tes yeux me désirent tout bas. Dis-moi à quoi ça sert de te vouloir encore comme ça. Tu t'es envoyé en l'air en me laissant derrière toi. Oh mon âme, mon beau fantôme, que puis-je encore faire pour toi? Mon âme, mon beau fantôme, s'il te plaît, réponds-moi. Mon âme, mon beau fantôme, que puis-je encore faire pour toi? Mon âme, mon beau fantôme, s'il te plaît, réponds-moi.
Même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Donc les Shaddock sont les ancêtres de la pompe à chaleur.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Bah oui, c'est QFD, c'est comme ça. Nous avions Mélodie Gardot, ça c'est bien quand vous avez un bon programmateur, et c'est le cas sur France Inter, ils le sont tous, Jean-Baptiste Audibert, eh bien ça vous fait une bonne après-midi, à la fois avec de la musique et puis quelques gouttes d'eau, un peu de soleil pour que tout ceci germe. Et il manque qui? Oh bah, elle est là.
Les oiseaux dans la charmille.
Voilà, c'est joli, mais là, l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Eh oui, bonjour Nathalie Fontrelle.
Bonjour, et ça me fait toujours rire.
Mais vive François Morel qui passe aussi de temps en temps le samedi chez nous. Vous avez pris l'air là,
c'était bien. Ah oui, c'était fantastique. Bon.
Alors, allons-y pour cette actualité. Quand la crise économique devient moteur de l'écologie, alors on se dit qu'on a un petit peu de peine à y croire.
Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, Denis, mais en tout cas, d'après l'étude annuelle d'Ethicity, société de conseil en développement durable, eh bien la crise incite les Français à économiser les ressources. Écoutez Elisabeth Pastor-Rice, elle est présidente d'Ethicity.
Les choses ont vraiment changé, car la crise, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, a plutôt favorisé la prise en main par les consommateurs de leur vie et de leur consommation. Près de la moitié en fait des Français aujourd'hui ont vraiment fortement évolué dans leur mode de consommation, et que même ceux qui sont un quart de la population dans notre étude sont vraiment freinés par des enjeux économiques importants,
un petit budget,
sont de plus en plus conscients, sensibles, ont les mêmes préoccupations que les autres et cherchent vraiment des solutions et de la pédagogie pour réduire évidemment leurs dépenses, donc c'est tout ce qui est énergie, déchets, mais aussi consommer autrement. Donc c'est très encourageant, et cette crise est vraiment un moment de changement de comportement de l'ensemble des Français.
Et les hommes deviennent écolos.
Ah, ça c'est la bonne nouvelle de l'année. Parce que la consommation est surtout faite par des femmes quand même, hein, la consommation quotidienne. Et la bonne nouvelle de l'année, c'est que c'est plus masculin. Donc ça, c'est vraiment... Alors ça veut peut-être dire qu'ils font plus aussi les courses tous les jours. Et c'est plus jeune aussi, ça s'est rajeuni. Parce que souvent, les sujets de développement durable étaient très liés soit à l'âge, soit aux catégories socio-professionnelles. Et ce qu'on voit vraiment cette année, c'est plus d'hommes et plus de jeunes, notamment chez les 15-30 ans, qui sont dans une logique de croissance verte et de modernité via le développement durable, l'environnement, le lien social, la proximité d'achat, etc.
Vous voyez, il faut les secouer, mais il ne faut pas désespérer complètement de l'homme, quoi, du mal. Et oui, ça vient petit à petit. Vive la crise. Alors, vous revenez sur une information qui est passée un peu inaperçue.
Alors, évidemment, Denis, il ne s'agit pas de l'étude du CRIGEN sur le maïs OGM.
Oui, j'ai remarqué, c'est un peu chaud, monsieur, nous, la semaine dernière.
Qui a fait tant de bruit, oui. Mais du rapport de l'association Oxfam sur les agrocarburants, qui, elle, a été diffusée dans une indifférence à peu près absolue. Mmh. Nourrir ou conduire, il faut choisir, ça c'est le message, parce que consacrer des terres agricoles aux cultures industrielles affame des populations entières. Clara Jamar, d'Oxfam France.
D'abord, les politiques de soutien aux agrocarburants ont un impact fort sur les prix alimentaires. On en a beaucoup parlé cet été. C'est un des facteurs majeurs d'augmentation des prix alimentaires et d'augmentation de la volatilité des prix alimentaires. La deuxième raison, c'est que les politiques de soutien aux agrocarburants sont un des moteurs principaux du phénomène dont on a beaucoup parlé ces dernières années, qui est le phénomène des accaparements de terres, et notamment de terres agricoles dans les pays du Sud. Entre 2000 et 2010, environ 60% des accaparements de terres qui ont eu lieu dans le monde étaient destinés à la production d'agrocarburants. La demande en fait en agrocarburants augmente à cause de ces politiques qu'on a mises en place. Par exemple, en Europe, on estime que c'est 65% des huiles végétales produites en Europe qui sont destinées à la production d'agrocarburants. C'est 40% du maïs américain qui est destiné à la production d'agrocarburants. Donc toutes ces denrées alimentaires qui se retrouvent sur les marchés énergétiques ne sont plus sur les marchés alimentaires, alors que la demande alimentaire, elle augmente. Donc ça crée une pression sur les prix. Ça, c'est la première chose. Il y a une compétition en plus qui se crée entre le marché alimentaire et le marché énergétique. Donc les prix alimentaires ont tendance à s'aligner sur les prix du pétrole qui, on le sait, augmentent et sont extrêmement volatiles. Donc c'est un double phénomène en fait qui pousse les prix alimentaires à la hausse et à un phénomène de volatilité de plus en plus important.
Nous sommes dans une merveilleuse société de dingue. Et en plus, Nathalie, ce n'est pas une bonne politique pour le climat.
Et rappelez-vous le rapport de la Cour des comptes, hein, publié il y a quelques mois, on en avait parlé. Hein. Le soutien public aux agrocarburants, eh bien, ce n'est pas une politique écologique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, parce que dans ce domaine, le gain n'est réellement pas probant. C'est une aide économique, oui, au monde agricole.
Voilà, et ça avait débuté, si je me souviens bien, avec M. Raffarin, les et puis après avec M. de Villepin. D'ailleurs, la France a revu ses objectifs d'incorporation des agrocarburants dans l'essence et le gazole.
Il passe de 10 à 7% et la défiscalisation sera supprimée en 2015. En tout cas, pour les agrocarburants de première génération, hein, ce sont ceux qui sont fabriqués à partir de plantes alimentaires, on attend mieux des agrocarburants de deuxième génération qui utilisent une matière première non alimentaire, comme par exemple les déchets de bois.
Là, on peut avoir un espoir tout à fait réel. Une question maintenant, Nathalie. Où sont passés les ZAPA?
ZAPA, ça va plus du tout. Ah. ZAPA, oui. Pour zone d'action prioritaire pour l'air, eh ben, ça va plus. Il s'agissait, rappelez-vous, de créer des îlots sains, d'air sain dans les villes, en interdisant les véhicules les plus polluants, dont les diesels non équipés de filtres à particules. Le Conseil national de l'air a publié des recommandations. Alors, rien d'obligatoire. Hein. Les villes piochent dans cette boîte à outils, en quelque sorte, ce qui leur semble le plus efficace pour réduire la pollution.
Il y avait 8 villes candidates à la création de ces ZAPA.
Il n'y en a plus que 7, puisque Nice a décidé de renoncer. En fait, la ville considère que ces restrictions de circulation risquent d'avoir un impact social. Les automobilistes les plus modestes roulent dans les véhicules les plus anciens, donc les plus polluants.
Et Delphine Bateau, donc la ministre de l'Environnement, a réuni les 7 villes, encore candidats, c'était la semaine dernière.
Oui, d'ici janvier prochain, le gouvernement doit proposer des mesures concrètes.
Alors on va dire, il faut peut-être se dépêcher, donc appuyer sur l'accélérateur.
Parce que Bruxelles a effectivement ouvert une procédure d'infraction contre la France pour les dépassements des seuils limites d'exposition aux particules fines. Et ça peut nous coûter très cher. 40 millions d'euros d'amende et une astreinte de 700 000 euros par jour de retard dans l'application d'un plan de prévention.
Et l'Europe a publié un nouveau rapport sur la pollution de l'air dans les villes européennes. Alors, commençons par les particules.
À 30% de la population urbaine européenne exposée à des concentrations supérieures aux limites annuelles.
Continuons, l'ozone.
97% des urbains ont respiré des concentrations supérieures à celles fixées par l'Organisation mondiale de la santé.
Le dioxyde d'azote.
Il concerne 7% des Européens qui vivent dans les villes.
Vous en voulez encore? Le dioxyde de soufre pour terminer?
Allez, Denis, oui. Respirez.
Oui.
Grâce aux normes sur la teneur en soufre des carburants, cette pollution a diminué et les concentrations sont restées inférieures aux limites réglementaires.
Voilà, et le plomb y est arrivé quand même aussi.
Ah bah oui, il y a plus de plomb dans l'essence.
Ouais, exactement.
Ma grippe vous va très bien,
m'a dit mon amant ce soir.
Ça vous donne un joli teint, ça vous va mieux que le noir. Ma grippe vous va très bien.
Souffrez que je tousse un peu, lui ai-je dit d'un air doux. Souffrez que je souffre un peu, j'ai parfois très mauvais goût. Souffrez que je souffre un peu.
Quand vous souffrez, mon ami,
m'a répondu mon amant,
vous ressemblez à la pluie, je trouve ça tressaillant. Quand vous souffrez, mon ami,
j'ai un peu peur et je dis que les larmes me vieillissent. Et j'ai un peu peur aussi que la fièvre m'enlaidisse. J'ai un peu peur et je dis,
elles vous vont comme un gant. Vous savez bien que vos larmes me plaisent beaucoup vraiment. Votre fièvre a bien du charme, elle vous rend comme un gang, 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 gang.
Ah vraiment, je suis trop maigre, je sens que je m'affaiblis. N'avez-vous pas de vinaigre? Voyez mes bras et je dis, ah vraiment, je suis trop maigre.
Mais ces os vous vont très bien,
m'a répondu mon amant.
Ne vous inquiétez de rien, ça vous donne un air troublant. La mort vous ira très bien.
Ah oh mais c'est sûr, faut dire que quelque part la chasse c'est une communion avec la nature quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Bien sûr, donc avec cette suite de l'actualité avec vous, Nathalie Fontrelle. Et cette semaine, eh bien, le groupe chimique Rhodia s'est lancé dans le recyclage des terres rares contenues dans les lampes basse consommation.
Et il pense même aller plus loin en recyclant les terres rares, des aimants ou encore des petits moteurs électriques.
Oui, alors parce que les terres rares sont rares, donc autant les récupérer.
Et c'est pas tant leur rareté qui font leur prix. Écoutez les explications de Frédéric Carencotte, il est directeur industriel de Rhodia.
Les terres rares ne sont pas rares dans la nature, elles existent dans la croûte terrestre, mais en concentration faible. Et on appelle cela les terres rares, car il est rare de les avoir à l'état pur. Donc quand vous allez creuser, vous allez avoir extraire de la terre. De cette terre, il va y avoir des terres rares, quelques pourcents. Quand on va séparer les terres rares des éléments non terres rares, on va avoir 17 terres rares à chaque fois. 17 terres rares mélangées. Et ce qu'il va falloir faire, c'est les séparer les unes par rapport aux autres pour avoir une terre rare, chaque terre rare pure. Et à ce moment-là, on va pouvoir les traiter pour les mettre en application. Pour pouvoir leur donner des propriétés intéressantes, il faut qu'elles soient pures. Il faut qu'elles soient, pour certaines applications, à plus de 99,999% de pureté. Le marché des terres rares a représenté en 2012 environ 120 000 tonnes. Là, je parle du marché mondial, donc c'est un petit marché.
Mais si on ne les avait pas, qu'est-ce qui n'existerait pas, par exemple, dans notre quotidien ?
Aujourd'hui, les terres rares sont communément appelées des vitamines de l'industrie. On retrouve des terres rares dans les téléphones portables, dans les écrans d'ordinateur, dans les disques durs, dans les véhicules, pour les petits moteurs électriques des véhicules, dans les éoliennes, pour la dépollution automobile de nos véhicules, aussi bien des pollutions pour les véhicules essence que pour les véhicules diesel. On les retrouve dans les lampes à économie d'énergie, donc on les retrouve dans beaucoup d'applications de notre quotidien.
Voilà, et donc les Chinois donc, produisent un peu plus de 90% de ces fameuses terres rares, et l'endroit où ils les produisent est extrêmement pollué. C'est encore une autre histoire. Recyclage toujours avec de nouveaux objectifs pour la récupération des vieux papier.
Oui, vous savez, Denis, qu'on ne recycle que 46% de ces vieux papiers, oui. Et que la majorité, en fait, est toujours mise en décharge ou brûlée dans les incinérateurs. Alors, le ministère de l'Environnement a décidé de demander aux professionnels d'accélérer la cadence avec un nouvel objectif, 60% de recyclage en 2016.
Oui, mais pour cela, il nous faut des sous.
Et vous savez que comme pour les emballages, c'est un éco-organisme.
Écofolio,
qui s'occupe de récupérer l'argent, c'est-à-dire la contribution qui est versée par les professionnels du papier. Et cet argent sert à financer la mise en place de la collecte et du recyclage. Dès 2013, dès l'année prochaine, la contribution va augmenter de 15 € la tonne. On va donc passer de 65 à 80 €. Mmh. Et parallèlement, c'est intéressant, les aides à l'incinération vont, elles, diminuer.
Enfin, et sur les publicités papier non adressées, vous savez, qui encombrent ma boîte aux lettres.
C'est vrai qu'elles sont largement exemptées de contributions financières. Vous pouvez toujours mettre un autocollant.
Ah bah ça, je l'ai mis.
Stop pub sur votre boîte aux lettres. Ouais. Mais je vous le concède. Dans les grandes villes, surtout, il est rarement respecté.
Voilà. Et puis aujourd'hui, donc, un papier sur deux seulement est collecté et donc recyclé.
Et oui, pour inciter les Français à trier les papiers, parce qu'en réalité, tout dépend de nous. Écofolio va lancer une campagne de communication le 8 octobre avec ces messages. Papier, tu redeviendras papier.
Oui.
Le chat a 9 vies, le papier en a 5.
Ah oui, est-ce qu'on peut recycler le papier 5 fois ?
Exactement. Oui. Et puis autre message, dans une prochaine vie, ce prospectus sera peut-être une lettre d'amour.
C'est pas beau ça,
hein ? Je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
Quand trop de recyclage risque de polluer la terre, alors un projet de l'Union européenne provoque l'inquiétude des associations écologistes.
Il s'agit de fabriquer du compost, donc de l'engrais, avec la technologie TMB.
Oui, on a fait un sujet, traitement mécano-biologique.
Alors autant le compost produit à partir de déchets organiques est pur, autant celui fabriqué à partir d'un mélange d'ordures ménagères peut être pollué. Le traitement mécano-biologique est a priori destiné à séparer mécaniquement le bon grain de livret, mais ça ne marche pas très bien. On retrouve du plastique, du verre dans le compost et des métaux lourds comme du cadmium.
C'est plus simple que de créer une filière de récupération des déchets organiques.
Sans doute, et c'est moins cher, et c'est peut-être pour ça que les industriels du traitement des déchets y sont favorables. Les agriculteurs, eux, en tout cas, ont refusé de signer une charte sur les composts issus de ce type de traitement. Du plastique dans mes champs, non merci. Quant aux agriculteurs bio, eh bien, leur cahier des charges l'interdit tout bonnement.
Alors, je connais un coin, heureusement, dans les Côtes d'Armor où ça fonctionne plutôt bien, donc c'est à Longvent-Louploux, mais c'est vrai qu'ils font extrêmement attention. Comme vous dites, ça peut, les ordures ménagères peuvent être polluées. Oui, c'est une réalité, on a raison d'avoir peur, mais ce coin-là, ça marche. Voilà. Mais ils ont vraiment une garantie incroyable. Ils y veillent tout le temps et tous les jours. Affaire à suivre. Ah, on va revenir au Mondial de l'Automobile qui vient donc d'ouvrir ses portes à Paris. On n'y trouve pas encore la voiture à 2 litres au 100 promise par Jean-Marc Ayrault lors de la conférence environnementale. Mais l'Institut français du pétrole travaille sur le sujet.
Oui, l'IFP pense qu'il est possible de diminuer la consommation de moitié.
En réduisant encore la cylindrée des moteurs ?
Avec une injection directe du carburant dans la chambre de combustion, vous le savez, on obtient un mélange plus homogène avec l'air. Donc, on améliore la combustion et le rendement.
Alors pour ça, il faut des carburants très purs.
Oui, parce que l'idée, c'est de pulvériser ce carburant. Donc il faut que les trous des injecteurs soient tout petits. Et en cas d'impureté du carburant, ça ne marche pas, ça bouge tout. Donc voilà. Mais le vrai défi, c'est d'alléger le poids du véhicule.
Parce qu'on rappelle qu'on a transformé nos voitures en résidences secondaires.
Et ouais, on va essayer de retrouver en fait la taille de guêpe des voitures des années 70. Hein. À l'époque, elles pesaient en moyenne 800 kilos. Aujourd'hui, elles font plus d'une tonne, entre 1200 et 1300 kilos.
Et pourtant, on utilise des matériaux plus légers.
C'est vrai, mais les exigences de sécurité et de confort ont alourdi les voitures. Enfin, il faut aussi travailler sur l'aérodynamisme, évidemment, et les frottements, avec des pneus moins larges. Mmh. Et puis, et ça ne va pas plaire à tout le monde, il faut limiter les performances des voitures, oui, l'accélération et la vitesse maximale.
Je vous rappelle, quand vous avez un compteur, il y a marqué 180 km/h, à combien est limitée la vitesse maximum sur autoroute en France?
130.
Et ben voilà. Je pense qu'un jour, ça va arriver à 120, comme en Espagne, et ils n'ont pas l'air forcément plus malheureux. Enfin, ils le sont pour d'autres raisons, mais en tout cas, pas pour celle-là. On va lever le pied. Merci beaucoup, Nathalie Fontrelle.
À bientôt, Denis.
Au revoir. Et puis, il nous reste quelques instants. Alors, vous signalez une fête des simples, autrement dit des herbes et des plantes, qui se trouve à Céroux, en Ariège, à la Bastide de Céroux, pardon, dans le département de l'Ariège, la cueillette hommes et plantes de la préhistoire à nos jours. Et puis, sur le répondeur est arrivé ce message.
Bonjour Denis, je suis Gérard Joulin de l'association Agrobio Périgord. Je t'appelle pour te signaler, ainsi qu'aux auditeurs, que se déroulent ce vendredi et samedi les rencontres internationales des semences paysannes. Cette manifestation, organisée par le réseau Semences Paysannes, Bio d'Aquitaine et Agrobio Périgord, se déroule au Change près de Périgueux. Les rencontres auront lieu avec des paysans de 14 pays différents. Un thème sérieux sur la biodiversité cultivée, avec des échanges sur les pratiques de chacun. La bonne humeur sera au rendez-vous avec un marché bio et une restauration sur place. Et pour clore cette fête des semences, un concert de jazz manouche ce soir à partir de 20h30. Vous pouvez nous joindre pour les renseignements complémentaires au 05 53 35 88 18 ou vous rendre sur le site de Bio d'Aquitaine. À tout à l'heure.
Oui, très important, donc les semences paysannes où on souhaite à coup de brevet, on le sait, mettre la mainmise sur le vivant. Donc tout ceci est en train d'évoluer. En tout cas, il faut se battre. On continue. On continue la semaine prochaine et là ce sera les questions des auditeurs, autrement dit vos questions au 56 40 40 35 qui sont arrivées au fur et à mesure ou bien par mail. Et on parlera entre autres de l'obsolescence programmée. Et oui, figurez-vous que des ingénieurs sont payés pour que votre téléviseur, votre réfrigérateur dure un certain temps mais pas trop quand même. Eh ben oui, faut bien faire marcher un peu le commerce, à part que ça fonctionne pas tant que ça. Donc on en parlera avec Serge Latouche, il y aura aussi d'autres questions sur l'automne, ça c'est Jean-Marie Pelt qui répondra. Nous irons aussi aux États-Unis pour faire un point sur la campagne présidentielle. Bref, une émission encore variée au nom de la diversité qui nous est chère. Merci à Sandrine Laurent, à Gilles Gaillard à la technique, à Stéphane Combe, notre assistant. Je remercie Patrick Deschamps de l'Isère, Albert Houck du Maine-et-Loire et Fabrice Lègle qui réalisait cette émission. Anne Gouzon a nourri les sites. Voilà, dans la soute, elle a nourri les sites. La Tulu du Mont-Petit-Loup, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux. Et puis, dans quelques instants, vous aimez les livres? Ah oui, vous aimez les livres, ça prend ça. Vous retrouverez Clara et les Chics Livres avec sa chouette bande de chroniqueurs. Ce sera Clara Dupont-Mono.